Enfin, après toutes ces annonces, voici Compte à rebours. C'est Marco au micro. Donc, Compte à rebours, vous connaissez, des histoires, des contes, des textes, des légendes. Et bien de toutes sortes, de toutes origines. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va partir en Afrique. En Afrique, d'abord en Égypte, et puis après en Afrique noire, avec des contes qui nous parlent de création. Mais, comme toujours, une petite introduction. Alors, j'ai reçu une lettre d'un lecteur, d'un auditeur plutôt, qui me dit... Pourquoi le Tao Te Ching, qui est un ouvrage certes vénérable, hein, puisqu'il a quand même quelques milliers d'années, mais à ce moment-là, pourquoi pas la Bible, après tout, hein, le Tao Te Ching a donné naissance à un semblant de religion qu'on appelle plus ou moins le taoïsme. Bref, et je lui réponds, ben oui, pourquoi pas la Bible. Donc on verra ça dans les comptes à rebours qui suivront la Bible, la Kabbale, le Coran et tous les textes qui peuvent nous éclairer. Et alors, bon, moi j'ai commencé le Tao Te Ching, ben je ne vais pas non l'épuiser parce qu'on n'épuise pas le Tao. Hein. Une voie qui peut être tracée n'est pas la voie éternelle. Le Tao, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais donné quelques stances et là j'en ai choisi un rapport avec l'actualité. Ah oui. Eh oui, c'est marrant. Enfin, l'actualité, pas l'actualité la plus immédiate, l'actualité, on va dire, oui, la période que nous vivons. Parce que, vous savez, dans tous les vieux textes chinois, on retrouve une particularité, c'est que les sages qui ont écrit, que ce soit Chuang Tzu, Lao Tzu ou Confucius, ils donnent des conseils aux souverains, ils donnent des conseils à l'empereur. Parce que leur souci, c'était, eh bien oui, comme nous d'ailleurs, comment faire en sorte que tout le monde s'entende, qu'il n'y ait pas trop de batailles, qu'il y ait, bon bref, pas trop d'injustices, etc., que la société fonctionne, que tout le monde soit heureux, plus ou moins. Et donc ils donnent des conseils aux souverains. Et voilà, donc c'est quelques conseils aux souverains que j'ai choisis qui vont peut-être éclairer d'une manière particulière les souverains que nous avons. Parce que ne nous y trompons pas, hein, c'est pas parce que la royauté a été abolie, c'est pas parce que l'empire a été aboli que lorsque dans le texte du Tao Te Ching on voit parler de l'empereur ou de l'empire, bien c'est exactement la même chose aujourd'hui. On a quand même des rois, des empereurs. Et des problèmes de gouvernance. 17. Les grands souverains de jadis, le peuple, savait qu'ils existaient. Ceux qui vinrent ensuite, il les aima, les honora, puis il les craignit, et enfin les méprisa. Pourquoi ? Celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut tenir debout. Celui qui étend les jambes ne peut marcher. Celui qui se met en vue reste obscur. Celui qui est satisfait de lui n'est pas estimé. Celui qui se glorifie et s'en mérite. Celui qui est orgueilleux cesse de croître. Par rapport au Tao, ses façons d'agir sont comme les vomissures et les tumeurs qui répugnent aux êtres. C'est pour ça, celui qui a le Tao ne suit pas cette route. Voilà donc, bon, bref. Comprenne qui pourra. Et on trouve de tout dans ce livre, donc ben oui, la Bible, une prochaine fois. En tout cas, on voyage. L'important, c'est que ce soit des textes anciens, comme ça au moins on se cache derrière toutes ces années qui donnent de la valeur aux choses. Alors, aujourd'hui, deux contes d'Afrique et deux contes qui nous parlent de création. Parce que vous savez, vous avez sans doute tous été à l'école et vous avez attrapé de la pâte à modeler. Eh oui, de la terre, hein, c'est de l'argile. Donc, avec la terre, on a envie de pétrir, de façonner, et on peut façonner tout un tas de choses, du moins si l'on en croit toutes ces vieilles légendes qui nous montrent comment, avec de la terre, on a fait des femmes, des hommes, des serpents, des animaux et des plantes. Une histoire qui nous vient d'Égypte ancienne, l'histoire de Bitiou. Bitiou est un jeune paysan égyptien. Un soir, au crépuscule, comme il ramène son troupeau à la ferme, la vache qui marche en tête tout à coup s'arrête devant la porte de l'étable et se met à meugler. Bitiou comprend son langage. Eh oui, car la sagesse d'un dieu est en lui. La vache dit « Ton frère Anapou est là, derrière la porte. Il tient un couteau dans sa main. Il veut te tuer. » Et Bitiou voit en effet une ombre longue sur le seuil. Aussitôt, il lâche son bâton et s'en va en courant, les bras au ciel. Mais Anapou, son frère, surgit au soleil couchant, bouscule le troupeau de vaches et poursuit Bitiou en hurlant. Alors, entre eux, déferle soudain un torrent infranchissable, un torrent surnaturel, bien sûr. C'est le dieu soleil qui les sépare ainsi, car il ne veut pas que les deux frères s'entretuent. Anapou s'arrête au bord de l'écume tourbillonnante et crie « Je t'aurais tué, Bitiou, si j'avais pu, car tu as voulu abuser de ma femme !» Bitiou répond sur l'autre rive « Si ta femme a dit cela, elle a menti. Maintenant, nous ne pourrons plus jamais vivre heureux dans la même maison. Je dois partir. » « Ne m'oublie pas, frère Anapou. Et si tu vois un jour l'eau se troubler dans ton verre, tu sauras qu'il m'est arrivé malheur. » Anapou revient à la ferme en pleurant amèrement. Bitiou, lui, s'en va sur les chemins d'Égypte, tout aussi accablé de chagrin. Son cœur douloureux lui pèse tant qu'un jour, parvenu dans une vallée lointaine, il l'arrache de sa poitrine et le cache dans un acacia. Alors, Khnoum, le dieu potier qui vivait en ce temps-là parmi les hommes, Khnoum, voyant le pauvre Bitiou si malheureux, si solitaire, le prend en pitié et fabrique pour lui une jeune femme en argile vivante. Elle est belle, elle sent bon, elle lave ses cheveux, elle lave ses cheveux dans la rivière et alors elle parfume toute la rivière. Bitiou la regarde et la respire avec ravissement. Un jour, comme elle lui demande pourquoi elle n'entend pas le moindre battement de cœur dans sa poitrine, il lui montre la cachette de son cœur, l'acacia. La femme d'argile vivante rit comme un enfant et s'en va en courant sur le chemin ensoleillé. Elle court jusqu'au palais du pharaon. Elle est si belle, elle est si parfumée que le pharaon tombe aussitôt amoureux d'elle. « Je serai ton épouse, lui dit-elle, si tu abats pour moi un arbre. » Elle le conduit devant l'acacia où le cœur de Bitiou est caché. Pour plaire à la femme d'argile vivante, le pharaon ordonne qu'on l'abatte, cet arbre. À l'instant où il tombe dans un grand gémissement de branches brisées, Bitiou meurt. Alors, dans une ferme lointaine, son frère Anapou emplit son verre d'eau et l'eau dans le verre se trouble. Aussitôt, Anapou prend son bâton de pèlerin et quitte sa maison. Il parcourt l'Égypte pendant 7 longues années, cherchant partout le cœur de Bitiou. Et il le découvre enfin dans le fruit d'une jeune pousse d'acacia. Anapou le prend au creux de sa main et pour le ranimer souffle doucement sur lui. Et puis le plonge dans une source fraîche. Alors, un taureau majestueux, d'une blancheur immaculée, surgit de l'eau tout ruisselant d'écume. Ce taureau, c'est Bitiou. Il mugit au soleil et s'en va lentement au palais de la reine, son ancienne épouse d'argile vivante. Il entre dans la cour, il fait sonner ses sabots sur les dalles. La reine se penche à la fenêtre, elle le voit, elle le reconnaît. Elle pousse un cri de terreur. Elle court chez le pharaon, tremblante et pâle. Elle dit « Je veux que tu sacrifies pour moi ce taureau blanc qui piaffe dans la cour du palais. » Le pharaon fait égorger le taureau blanc. Du sang répandu sur le sol naissent deux lauriers en fleurs. Deux lauriers dont les feuillages agités par le vent murmurent en langage humain. Ils parlent à voix paisible de la beauté de la vie. Mais la reine d'argile ne peut supporter de les entendre. Elle les fait abattre et regarde droite et fière les bûcherons à l'œuvre. Au premier coup de hache, un petit éclat de bois cogne contre son front. Au deuxième coup de hache, une écharde se fiche dans sa lèvre. Elle mord la goutte de sang qui perle. Et aussitôt, elle sent dans son ventre bouger un fils. Et bientôt, elle met au monde celui qu'elle a tué trois fois, Bitiou, qui fut un homme, un taureau blanc, un laurier murmurant. Il est maintenant un nouveau-né. Elle le nourrit et passe les années. Enfin vient le jour où celui que l'on appelle désormais le trois fois vivant monte sur le trône des pharaons. Alors la reine d'argile se défait et se disperse comme la poussière des chemins. Ainsi finit l'histoire de Bitiou, que l'on racontait sur les places publiques il y a pas moins de 4000 ans. Et maintenant, le guéla d'en haut et le guéla d'en bas. Il y avait, avant que toutes les choses soient, sur la terre et dans le ciel, deux créatures très puissantes, le guéla d'en haut et le guéla d'en bas. Un jour de silence, un jour de longue paix dans l'univers, le guéla d'en bas s'ennuya, se mit à bâiller. Alors, une motte d'argile sortit de sa bouche. Voyant cela, le guéla d'en bas dit « Oh, je vais faire des hommes, des femmes, des poissons, des animaux et des plantes avec cette argile. » Et il fit des hommes, des femmes, des poissons, des animaux et des plantes. Puis il dit « Maintenant, je vais mettre du sang dans le corps de ces hommes, de ces femmes, de ces poissons, de ces animaux et de ces plantes que j'ai pétris d'argile. » Le guéla d'en bas versa du sang dans le corps des hommes, des femmes, des poissons, des animaux. Mais la vie ne vint pas en eux. Ils restèrent froids comme des statues. Le guéla d'en bas fit la gueule. Il rentra dans sa grotte et laissa les hommes, les femmes, les poissons, les animaux et les plantes d'argile dehors. Mais ce jour-là, un orage déchira le ciel, la pluie tomba et un grand nombre de créatures d'argile furent réduites en tas de boue informes. Alors le guéla d'en bas, considérant ce désastre, fut pris de remords. Il ramassa quelques hommes, femmes, poissons, animaux et plantes que la pluie n'avait pas réduits en bouillie et les mit à l'abri dans une grotte. Je vous parle d'un temps très lointain. En ce temps-là, la nuit opaque régnait sur la terre. Et le guéla d'en bas devait à toute heure du jour faire du feu pour s'éclairer, du jour ou de la nuit, puisqu'il n'y avait ni jour ni nuit. La nuit, elle aussi, elle habitait sur terre, mais le jour, lui, il habitait au ciel. Le temps était immobile en quelque sorte. Alors voici que le guéla d'en haut, se penchant au bord du ciel, vit que le guéla d'en bas avait de beaux jouets d'argile. et lui dit « Hé, Géla d'Amba, donne-moi quelques-uns de tes hommes, de tes femmes, de tes poissons, de tes animaux, de tes plantes d'argile. J'allumerai la vie en eux, et à toi, je te donnerai la lumière de mon soleil. » Le Géla d'Amba répondit « D'accord, mais donne la vie d'abord. » Le Géla d'Amba souffla la vie dans le corps des hommes, des femmes, des poissons, des animaux, des plantes, et fit descendre sur terre la lumière du soleil. Aussitôt, les hommes, les femmes se levèrent et se mirent à marcher. Les poissons se levèrent et se mirent à nager. Les animaux se levèrent et se mirent à bondir. Les plantes se levèrent et se mirent à pousser. Et le Géla d'Amba dit « Maintenant, Géla d'Amba, tiens ta promesse !» J'ai donné la vie à tes créatures d'argile, je t'ai donné la lumière du soleil. En échange, donne-moi quelques-uns de tes hommes, de tes femmes, de tes poissons, de tes animaux et de tes plantes. » Mais le Géla d'Amba ne voulut rien entendre. Il refusa de tenir sa promesse et les deux Gélas se disputèrent. Et ils se disputeront jusqu'à la fin des temps, je vous le dis, et c'est un grand malheur. Car depuis le premier jour de leur dispute, le Géla d'en haut cherche à reprendre la vie qu'il a soufflée dans les corps terrestres. Et chaque fois que le Géla d'en haut parvient à reprendre la vie, dans le corps des hommes, des femmes, des poissons, des animaux, des plantes, un homme, une femme, un poisson, un animal ou une plante meurt. Et chaque fois que le Géla d'en bas insulte le Géla d'en haut, les hommes, les femmes, les poissons, les animaux, les plantes sont malades. La tempête souffle, la guerre ravage le pays. Et sachez encore que la lune est l'œil du Géla d'en haut. De cet œil ouvert, le Géla d'en haut surveille le Géla d'en bas, son ennemi, même la nuit, quand le Géla d'en haut reprend au Géla d'en bas le soleil qu'il lui a donné avec l'âme des hommes, des femmes, des poissons, des animaux, des plantes. Au temps où les hommes, les femmes, les poissons, les animaux, les plantes n'étaient que statues d'argile. Ainsi va la vie. Nasreddin est de retour, de passage dans la ville de Brousse. Tiens, Brousse, c'est pas loin de Saint-Antonin, ça. De passage dans la ville de Brousse, Nasreddin se rend au bazar pour y faire quelques emplaintes. Et là, ses yeux tombent sur une magnifique théière en porcelaine de Chine. Malgré son prix, il ne peut pas résister, il l'achète. À peine a-t-il payé qu'il s'aperçoit qu'elle doit être très fragile et que s'il la casse, il ne trouvera personne d'assez habile à Akshehir où il habite pour la réparer. Il en parle au marchand de ce problème, lequel lui répond qu'il n'y en a effet dans toute la région qu'un seul artisan capable de mener à bien la réparation d'une théière aussi précieuse. Il est justement installé dans la rue d'à côté. Alors, sans hésiter, Nasreddin, d'un coup de poing, brise la théière en 1000 morceaux devant le commerçant stupéfait. « J'aurais bien fini par la casser un jour. Or, j'habite très loin d'ici. Je crois donc plus sage de la faire réparer pendant que je me trouve sur place. Compte à rebours, eh bien ça semble fini pour aujourd'hui. Tiens, disons-le quand même, c'était Bourou, les musiques africaines. Donc Bourou, un groupe que l'on connaît, et dont un des membres a disparu, mais l'autre continue à faire de la musique avec Pamat. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à signaler? Bien, si vous voulez savoir des précisions sur d'où viennent ces histoires, en l'occurrence là, elles venaient d'un livre d'Henri Gougou, L'Arbre à Soleil, je peux le dire. D'où viennent les histoires, d'où viennent les musiques, et bien même vous pouvez écrire à CFM, bien sûr, hein, à Keylus, ou à téléphoner aussi. Non, écrire, c'est mieux. Voilà, CFM Caussade, je cherche l'adresse, mais bon, vous la trouverez quelque part, hein, cette adresse, je pense qu'elle est sur Internet. Bien. CFM Radio, bien sûr. Voilà, donc, bien, Contrebourg, ça va reprendre, mais la semaine prochaine. Mais pour le moment, c'est fini. C'était Marco et je vous dis à bientôt.
Retrouvez toutes les émissions Compte à rebours en podcast sur cfmradio.fr.